bien les choses. Les lectures que nous venons d'entendre sont celles qui sont prévues le lundi de la 12e semaine du temps ordinaire. Et j'ai tenu à ce que nous les gardions parce que, de fait, elles s'accordent très bien avec cette journée de synode que nous venons de vivre. D'abord, en raison des propos de l'apôtre saint Paul. La deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens est une longue expression de sa propre expérience, une expérience rude dans les difficultés du ministère apostolique. Et vous l'avez entendu, il commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Et il nous est bon, même dans les difficultés que peut connaître l'Église aujourd'hui, de commencer par l'essentiel, qui est de rendre grâce à Dieu. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons commencé cette journée par rendre grâce à Dieu, sans arrêt. Nous sommes volontiers dans la prière, simplement à demander, « Seigneur, Seigneur, donne-nous ceci ou cela. » Si nous ne savons pas déjà reconnaître qu'il est à l'œuvre, comment pourrons-nous reconnaître alors ce qu'il nous donnerait ? Et saint Paul aussi insiste sur la détresse et sur le réconfort. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Et s'il est des moments dans la vie de notre Église où nous avons le sentiment d'être dans la détresse, ne l'oublions pas. Dieu nous accorde le réconfort et le salut. Et si nous, nous sommes dans la détresse, c'est pour que d'autres puissent connaître le réconfort et le salut. On a beaucoup parlé de la tempête qui a secoué l'Église ces mois derniers, et le père Arnaud y faisait allusion dans son introduction. Je reste persuadé que si l'Église s'est trouvée sous le projecteur la première, c'est pour qu'elle puisse apporter le réconfort à ceux qui, tôt ou tard, ne manqueront pas de se trouver sous le même projecteur. Car ne nous leurrons pas, les abus dont il a été question ne sont pas des abus propres à l'Église, ils sont des abus propres à toute société humaine. Peut-être y a-t-il d'ailleurs une exigence qui nous est reconnue et qui nous est demandée d'être non seulement une société humaine, mais principalement une société divine. Non pas sans doute à la manière dont notre entourage s'imagine que doit être Dieu, mais bien à la manière dont nous savons que Dieu est. Or, Dieu se fait proche de l'homme, il n'est pas inatteignable, il n'est pas impassible, il se fait proche de l'homme puisqu'il a pris la condition des hommes et qu'il est passé avec les hommes de la mort à la vie en entraînant l'humanité dans sa vie. Ne l'oublions jamais. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'apôtre insiste sur ce réconfort qui est le nôtre. C'est parce que nous savons qu'au terme de notre existence, il y a cette plénitude, que l'Église avance non pas vers nulle part, mais qu'elle avance vers sa plénitude. Il y a parmi vous des gens qui aiment à faire les pèlerinages. Nous n'oublions jamais que dans un pèlerinage, ce n'est pas n'importe où que nous allons. Nous pourrions aller au bord de la mer, en pèlerinage, pourquoi pas, c'est sympathique. Mais c'est vers un sanctuaire que nous allons. Pour nous rappeler que l'ultime but de toute existence, c'est la plénitude en Dieu même. L'évangile que nous avons entendu, c'est celui aussi que nous entendons chaque 1er novembre pour la fête de tous les saints. Et il nous est bon, en cette année où nous avons pris conscience que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, de nous rappeler tous les saints qui, au fil des siècles, ont pu exprimer le plan d'amour de Dieu pour l'humanité, l'exprimer dans la prière, dans le service, dans l'annonce explicite, dans toutes les dimensions de la vie chrétienne, et qu'ils nous redisent sans cesse que nous aussi, nous sommes appelés avec eux à exprimer ce plan d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Nous avons essayé aujourd'hui de commencer à tracer quelques pistes sur qu'est-ce qu'il serait bon de continuer à mettre en œuvre pour que notre Église vive pleinement sa mission, qui, comme je vous le disais au début de cette journée, n'est pas simplement une petite mission sympathique où entre nous, nous boirions le thé avec des petits gâteaux, mais une mission audacieuse qui est de dire, par la parole, mais surtout par l'exemple, cette charité du Christ. La charité nous presse, dit le même apôtre Paul. Une charité qui nous invite à dépasser nos propres frontières. La tentation qui peut exister, qui est la tentation du repli sur soi, est une tentation odieuse. Elle est en fait mortifère. Si elle peut paraître sur le moment utile parce que nous serions épargnés d'une bourrasque qui viendrait de l'extérieur, elle est en fait mortifère parce qu'elle nous replie totalement sur nous. Elle nous enferme sur nous. Elle devient donc un enfer. Allez de toutes les nations faites des disciples. Allez propager l'Évangile, nous redit sans cesse le Christ. Et les saints, à travers les âges, nous montrent l'audace de cette évangélisation. Comment s'y sont-ils pris? Nous savons très bien comment nos aïeux, et souvenez-vous, pour ceux d'entre vous qui avaient pu participer à la journée de rentrée en octobre dernier, cette conférence du professeur Georges Viard sur les premiers temps de l'Église dans notre contrée, ils ont tout simplement parti de ce qu'il y a de bon là où ils étaient. Le même apôtre Paul, dans une lettre qu'il écrit à son disciple Timothée, dit « Annonce à temps et à contre-temps ». Annoncer à temps, c'est entrer dans la particularité du peuple au milieu duquel tu es. C'est donc chercher à voir, et nous l'avons montré tout à l'heure, quelles sont les opportunités pour que l'Évangile soit compris. Les opportunités. Il y a un grand nombre d'opportunités qu'il est bon pour nous de saisir. Même si, de fait, ceux qui sont à nos côtés n'expriment pas leur désir et leur soif spirituelle de la même manière que nous. Même s'ils balbutient bien souvent et que nous n'arrivons pas toujours à trouver quel est le bon créneau. Mais nos aïeux ont profité même du paganisme ambiant pour pouvoir y mettre l'Évangile. Ils sont partis de ce qui était bon et l'ont petit à petit réorienté vers la foi de l'Église, réorienté vers l'unique Maître et Seigneur qui est le Créateur de tous. J'en donnais tout à l'heure dans une conversation quelques exemples. Peut-être connaissez-vous le site de Sion près de Nancy. Bien avant que les pèlerins lorrains d'aujourd'hui aillent honorer la Vierge Marie, nos ancêtres gaulois allaient y honorer la déesse Rosmerta. Et quand l'Évangile est arrivé dans cette contrée, eh bien, petit à petit, il a été dit aux gens, « Mais oui, ce n'est pas Rosmerta la plus importante, c'est Maria. » Et aujourd'hui, montent encore des gens qui viennent honorer véritablement Maria. Ils ne viennent pas honorer Rosmerta derrière Maria. Ils viennent bien honorer Maria. Nous sommes partis d'un besoin profond. Nos aïeux sont partis de ce besoin profond qu'ils ont réussi à colorer à la lumière de l'Évangile. Quels sont les bienfaits aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes? Quelles sont les belles choses à quoi aspirent nos contemporains, à travers lesquelles nous pouvons remettre quelques graines de l'Évangile qui vont pouvoir fleurir. C'est tout l'objet, tout l'enjeu de notre réflexion. Je vous laisserai, bien sûr, répondre par vous-même, et ainsi nous pourrons reprendre la conversation dans quelques semaines pour la deuxième session de notre synode. Mais du coup, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage parce que nous voyons bien que le défi qui est grand est un défi heureux. Heureux comme ces béatitudes que nous venons d'entendre, à laquelle nous sommes invités à adhérer profondément. Heureux que nous serons dans une disponibilité de tout notre être à l'œuvre même de Dieu. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous invite à être des disciples missionnaires. Nous avons d'ailleurs entendu tout à l'heure ce mot qui est revenu. Des disciples missionnaires, c'est-à-dire des gens qui, à la fois, veulent suivre le Christ et à la fois l'annoncent. Dans la lettre aux catholiques de France, écrite en 1996, les évêques disaient à peu près la même chose, invitant à la fois à approfondir chacun son propre attachement au Christ pour pouvoir ensuite en être de vrais témoins. Et c'est là que nous sommes attendus. Le défi premier est sans doute de tenir ce double mouvement, de nous attacher de plus en plus au Christ, avec toutes les conséquences que cela implique, avec une droiture de vie que cela implique, en étant conscient de la miséricorde du Seigneur, pour pouvoir appeler ceux qui sont à nos côtés à entrer dans cette même miséricorde. Parmi les saints, la multitude des témoins, je terminerai donc sur la figure de la sainte patronne de Montigny-le-Roi, sainte Marie-Madeleine, dont on nous dit que le Seigneur avait chassé d'elle sept démons. Quels sont ces sept démons? Je laisse à chacun l'imagination grandir pour essayer de déterminer et de compter s'il y en a six ou huit. Nous savons bien que sept démons, c'est un chiffre symbolique. Mais nous voyons une femme blessée qui a cherché à aimer du mieux qu'elle pouvait et qui a découvert tout à coup, dans le regard du Christ, ce respect profond de sa dignité intrinsèque et qui a pu le suivre. Si nous rentrons dans le même regard du Christ, nous serons alors de vrais missionnaires. Vers où allons-nous? Les pistes sont nombreuses. Nous venons d'en distinguer une petite vingtaine. Nous allons les approfondir dans les mois à venir. La première piste sera notre propre attachement. Comme le disait le pape Paul VI dans l'encyclique Evangelii Nuntiandi, l'homme contemporain écoute davantage les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est qu'ils sont d'abord des témoins. Amen.